Bon, sera bienvenue dans cette émission dans un contexte de conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Sécurité, économie et situation humanitaire déjà fragilisées. La guerre au Moyen-Orient entre la coalition américano-israélienne et l'Iran impacte la RDC principalement dans les secteurs des hydrocarbures. Depuis quelques jours, la ville de Kinshasa est marquée par une rareté des carburants dans plusieurs stations de la place, fragilisant ainsi la mobilité. On observe des longues files d'attente de véhicules de toutes catégories pour s'approvisionner en carburant. Par ailleurs, les programmes alimentaires mondial PAM alertent sur le fait que le nombre total des personnes confrontées à une faim aiguë dans le monde pourrait atteindre des niveaux sans précédent en 2026 si l'escalade de la situation au Moyen-Orient continue de déstabiliser l'économie mondiale. Les quasi-blocages du trafic maritime dans les détroits d'Ormuz et les risques croissants pesant sur la navigation en mer Rouge entraînent déjà une hausse des coûts de l'énergie, des carburants et des engrais, ce qui aggrave la faim au-delà du Moyen-Orient. Selon l'analyse du PAM, les pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie sont les plus vulnérables en raison de leur dépendance aux importations des denrées alimentaires et des carburants. Quelle analyse peut-on faire de cette situation et quelles conséquences pourrait-elle entraîner sur l'économie congolaise? C'est l'objet du débat de ce soir et nous en parlons avec Emery Mbachi Bopé. Il est président de l'association des pétroliers privés de la RDC. Bonsoir Emery Mbachi Bopé. Bonsoir monsieur Emery Mbachi Bopé. Apparemment il est là. En ligne également, Fabrice Ngabo, il est expert en finance, en fiscalité et finance. Bonsoir Fabrice Ngabo.
Bonsoir Monsieur Dimatou.
Et aussi en ligne, Lems Kamwanya, il est expert en économie et finance. Bonsoir Lems Kamwanya.
Bonsoir Dimatou.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à
tech@radiocapi.net. Ce mardi matin, dans plusieurs stations-service de la capitale, chauffeurs et usagers dénoncent des difficultés d'approvisionnement marquées par des longues files d'attente, des tensions et une incertitude persistante. Le point avec Magloire Landou et Jean-Marie Kanaimba, on les écoute.
Sur le terrain, la situation reste tendue malgré les assurances des autorités. Dans plusieurs stations-service de Kinshasa, les files de véhicules s'allongent dès les premières heures de la matinée. Chauffeurs de taxi, conducteurs de bus et particuliers expriment tous la même inquiétude.
Les carburants est difficile à trouver. Depuis 3 heures que j'attends, je n'y arrive pas. C'est vraiment pénible. Pour s'en procurer, le pompiste exige 7000 francs pour un bidon de 5 litres et 3000 francs pour un bidon de 5 litres. Et si vous arrivez tard, vous n'en aurez pas. Nous ne savons pas ce qui se cache derrière cette situation. Nous souffrons énormément à cause du carburant. Nous le cherchons partout, mais il n'y en a pas. Il y a trop de monde, les stations sont pleines. Le ministre dit qu'il y en a, mais sur terrain, il n'y en a pas. Nous souffrons énormément. Lui ne circule pas, c'est nous qui cherchons et la souffrance est énorme. Nous voulons que les carburants reviennent à la normale pour qu'on retrouve le calme. Si la situation se stabilise, nous pourrons aussi bien travailler.
Face à cette réalité, le contraste avec la réaction officielle demeure frappant. En attendant une amélioration concrète de l'approvisionnement, l'incertitude continue de peser sur le quotidien des Kinois.
Merci à vous Magloire Landou et Jean-Marie Kanaimba. Le ministère de l'économie nationale et le ministère des hydrocarbures annoncent avoir pris des dispositions immédiates pour faire face au contexte des tensions sur le marché international des produits pétroliers liés à la situation géopolitique du Moyen-Orient. Ces dispositions prises en coordination avec le ministère sectoriel concerné et les opérateurs du secteur visent à assurer la continuité de l'approvisionnement du pays. Des détails avec Blaise Shindani Kambala.
Selon le communiqué des ministères de l'économie nationale et des hydrocarbures rendu public ce mardi, ces dispositions portent notamment sur la mise en place des mesures exceptionnelles visant à alléger certains coûts liés à l'importation et au transport des produits pétroliers afin de faciliter leur approvisionnement sur les marchés nationaux, mais aussi le renforcement du mécanisme des avances aux sociétés pétrolières en vue de soutenir leur trésorerie et de garantir la continuité des opérations d'importation. Les deux ministères annoncent aussi la levée de tous les obstacles au dédouanement accéléré des produits pétroliers. Le ministère de l'économie nationale et le ministère des hydrocarbures rassurent la population qu'il n'existe pas de pénurie des carburants et que des stocks de produits pétroliers sont disponibles et suffisants pour approvisionner l'ensemble du territoire national. Les sociétés en charge de l'approvisionnement ont également été instruites de renforcer le rythme des livraisons de jour comme de nuit afin d'améliorer la desserte des stations.
Merci à vous, Blaise Shindani Kambala. Fabrice Sengabo, vous êtes expert en fiscalité et finances. Quelle analyse vous faites de cette situation?
Merci beaucoup, Monsieur Guy Maté. Salut mes co-débatteurs, mais également les auditeurs de Radio Catholique du Sud. Alors, la situation que nous traversons actuellement est naturellement liée à l'escalade, au conflit qu'il y a aujourd'hui entre l'Iran d'une part et l'Israël et les États-Unis d'autre part. Et je dois vous rappeler que cette guerre, lorsqu'elle a commencé, avait une orientation essentiellement centrée sur le programme nucléaire iranien. Mais aujourd'hui, l'impression que ça donne est que l'orientation de ce conflit devient éminemment économique. C'est ainsi que vous avez vu les États-Unis lever l'option unilatéralement, sans décision d'un quelconque organe à l'échelle internationale, de soutenir l'Israël pour frapper l'Iran. Ce qui a conduit à la mort du guide suprême et toutes les conséquences qui ont suivi. Et maintenant, aujourd'hui, le président américain se tourne vers les autres puissances pour l'aider à obtenir l'ouverture du détroit d'Ormuz. Il faut rappeler que le détroit d'Ormuz fait passer ou traverser quotidiennement à peu près 20% de la production mondiale du pétrole. À peu près, au niveau mondial, la production est estimée à 105 millions de barils de pétrole par jour. Et alors, ce détroit d'Ormuz fait traverser par jour à peu près 20 millions de barils de pétrole. Alors, bloquer les navires pendant à peu près 24 jours représente des risques énormes, si ça perdure, des risques de récession à moyen et à moyen terme. Alors, maintenant, pour le cas de la RDC, c'est vrai que la RDC ne dépend pas directement du pétrole du détroit d'Ormuz, mais il s'est fait que nous sommes dépendants indirectement des cours mondiaux du pétrole, d'une part, et d'autres produits, n'est-ce pas, dont nous sommes importateurs et dont la production dépend essentiellement de ce pétrole. Vous savez que les industries ont besoin de ce pétrole pour fonctionner. Les navires qui assurent les transports du commerce international ont également besoin de pétrole, les transports aériens également, et donc c'est pratiquement l'économie mondiale qui sera impactée. Alors, il s'est fait qu'en même temps, cette crise, certes, bouleverse le monde entier, mais en même temps, elle constitue une opportunité pour d'autres économies qui sont productrices du pétrole.
Voilà, avant de parler de ces opportunités, s'il faut parler des conséquences, n'est-ce pas, de cette crise sur l'économie congolaise, parce que les pays dépendent aussi des importations, n'est-ce pas, des produits qui proviennent du marché international, c'est quoi, quelles pourraient être aujourd'hui les conséquences de cette crise sur l'économie du pays, de la RDC?
Premièrement, la première conséquence, c'est que nous sommes une économie qui est intensivement dépendante des importations. C'est-à-dire, nous allons à coup sûr subir les chocs liés aux importations dont nous devons vivre à l'interne. Ça, c'est un premier élément. Deuxième aspect, de manière spécifique par rapport au pétrole, je n'ai pas entendu le gouvernement nous dire exactement quel est le niveau des réserves stratégiques que nous avons et que ces réserves stratégiques représentent combien de jours. Par exemple, pour les États-Unis, on vous dit les États-Unis disposent des réserves stratégiques qui vont de 30 à 90 jours. Le gouvernement ne nous a pas dit c'est quoi le niveau des réserves stratégiques que détient la RDC pour effectivement apaiser les opérateurs économiques ou pour réduire les risques liés à à la carence de ce produit à l'échelle internationale. Mais j'étais en train de relever un fait très important, c'est que vous avez beaucoup de pays africains qui depuis quelques années ont lancé la production, disons le raffinage du pétrole au niveau local. C'est le cas par exemple du Nigeria, de l'Algérie et même l'Égypte à travers la raffinerie Dangote, n'est-ce pas? Et ça fait que ces pays vont d'une certaine manière tirer profit ou exploiter en termes d'opportunités, n'est-ce pas, cette crise.
Voilà.
Qui, alors, pour d'autres pays, notamment la RDC, constitue naturellement une menace pour notre économie.
Voilà, vous l'avez.
Allez-y. Je me rappelle que il y a 3 ans pratiquement, nous sommes en 2022, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, du Conseil des ministres, le chef de l'État avait instruit que les moyens soient mis en contribution pour obtenir la relance de la société. De la société dite SOCIR.
Justement, on va y revenir. Fabrice, on va revenir sur toutes ces opportunités, n'est-ce pas, qui peuvent se présenter à travers, n'est-ce pas, ces conflits au Moyen-Orient. Vous avez évoqué le fait que le gouvernement n'a pas précisé le niveau des réserves stratégiques que nous avons dans ces pays, mais il y a quand même une série de mesures qui ont été prises, qui ont été même renforcées. À votre avis, quelle pourrait être l'efficacité et aussi les limites des différentes mesures que vient d'annoncer le gouvernement pour amortir les chocs?
Bon, la première limite, c'est que nous n'avons pas le contrôle de la production. Alors, il sera difficile le fait pour le gouvernement d'avoir rassuré et du coup avoir les dividendes. Et donc, je pense que la question doit être prise au sérieux dans la mesure, au niveau international, déjà la perte que l'économie mondiale a subie, elle est significative. Si on ramène le prix, si on considère le prix du baril de pétrole à 100 dollars américains, avec les 20 millions de barils de pétrole par jour, vous avez pratiquement 2 milliards de dollars américains en termes de pertes que l'économie mondiale subit. Et si cette crise atteint par exemple 60 jours, on sera pratiquement à 60 milliards. Or, quand vous voyez l'attitude du président américain et avec Israël qui continue à frapper les sites stratégiques d'Iran, et la position d'Iran qui, après la mort du guide suprême, considère que les négociations appartiennent au passé. Et donc, vous allez constater que les protagonistes sont loin d'être accordés sur les solutions durables qui pourraient nous éviter les pires. Et donc, des pays fragiles comme les nôtres, qui ne produisent pas, qui ne transforment pas, qui ne raffinent pas, et donc, vont subir des conséquences grave pour le fait de n'avoir pas été n'avoir pas pris en considération cette donne avant, surtout lorsqu'il y a eu cette escalade entre d'une part la Russie et l'Ukraine. C'est en ce moment-là que vous avez vu beaucoup de gouvernements se réveiller, mais après on a vu que voilà, on s'est retrouvé en train de dormir sur notre laurier. Maintenant on est rattrapé. Et ça devient très compliqué.
Voilà, au-delà de ces limites,
moi je pense que si.
Au-delà de ces limites, quelle pourrait être l'efficacité des mesures qui viennent d'être prises par le gouvernement dans les contextes du moment? L'efficacité de ces mesures-là, qui ont des limites, mais est-ce qu'elles ne sont pas aussi efficaces à certains points de vue?
Je ne pense pas. Par contre, le gouvernement, plutôt, devait, à très court terme, diversifier rapidement ses sources d'approvisionnement. Voyez-vous ? C'est peut-être cet aspect, la diversification des sources d'approvisionnement, qui pourrait nous permettre de réduire, ne serait-ce que, les risques liés à cette crise mondiale et dont les effets sont devenus palpables. Parce qu'il y a peu, le prix du baril du pétrole était en deçà de 100 dollars, mais aujourd'hui, ça va même à 112 dollars. Et donc, je crois que la crise, elle est en train de s'aggraver. Et voilà, et les pays fragiles comme le nôtre, les pays qui n'a pas mis un accent sur la production, voilà pourquoi, toutes les fois que nous avons l'occasion d'échanger sur cette question, une question similaire, on insiste beaucoup sur la production.
Merci.
Et plus on produit, moins on est fragile au choc exogène et on sait rebondir même après les crises.
Merci Fabrice Ngabo. Emery Mbachibo, est-ce que vous êtes là?
Bonsoir.
Bonsoir, on n'a pas eu le temps de se saluer au début de l'émission. Je rappelle que vous êtes président de l'association des pétroliers privés de la RDC. Quelle analyse vous faites de cette situation, M. Emery Mbachibopé?
Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez pour expliquer aussi.
Apparemment, M. Emery, vous avez activé les modes main libre?
Non. Attends. Je vais corriger ça. C'est bon.
Voilà, allez-y.
Alors, je disais que en ce moment précis, nous pouvons dire que la situation est vraiment préoccupante. Nous sommes un pays, un grand pays consommateur de produits blancs, et que les conflits armés les conflits, la guerre qui sévit au niveau du Moyen-Orient, nous, en tant que grand pays consommateur de produits pétroliers, nous ne pouvons pas échapper aux conséquences de cette situation. Nous avons déjà une situation de cette à l'Est qui déjà on se bat pour que cette agression puisse finir parce que ça affecte notre économie aussi. Ajouter la situation des Moyen-Orient, je crois que ça a des répercussions importantes sur notre économie, l'économie congolaise, notamment sur le secteur des hydrocarbures.
Voilà, donc vous rappelez que...
Vous avez remarqué une rareté.
Oui.
C'est un exemple concret de cette vulnérabilité et qui affecte directement la mobilité et... l'économie au niveau de notre pays.
Justement, Monsieur Emery Mbachibopé, justement, est-ce que la pénurie qu'on constate dans certaines stations actuellement, est-ce qu'elle est liée directement à la situation dans les Moyen-Orient ou ce sont plutôt des spéculations, n'est-ce pas, qui peuvent se justifier dans un contexte comme celui-ci?
Bon, au vu de tout ce qui a été dit par les autorités compétente, vous avez suivi comme nous tous, il y a la possibilité d'avoir une couverture selon les ministères des hydrocarbures qui peut aller jusqu'au mois de juin. Moi, je crois que nous devons quand même faire confiance à notre gouvernement parce que pendant la période difficile de Covid, nous étions, si pas parmi les pays qui ont géré cette crise, au point que nous avons gardé notre prix à la pompe échangé, et au niveau interne, dans la structure des prix, parce que le produit pétrolier, ce sont les produits hautement stratégiques, dont le prix à la pompe et les prix d'achat à la pompe, comme tous les consommateurs, ne dépend pas seulement des facteurs endogènes ou des facteurs liés à notre pays. Nous dépendons aussi des cours des marchés au niveau international, ce qui fait qu'on peut toujours garder la situation telle qu'elle se présente, mais en bougeant ou bien en touchant sur certains leviers de sûreté à l'interne pour permettre à ce qu'on puisse gérer cette situation de crise qui est arrivé par cette guerre au Moyen-Orient. Parce qu'en fait, tous les produits pétroliers sont importés. Donc, à ce moment précis, vous avez appris que la chef du gouvernement, notre madame la première ministre, a signé un document où il y a eu des suppressions qui ont été faites pour permettre à ce que le PMF commercial soit à mesure d'être appréciable et que cela ne puisse pas impacter le prix à la pompe. Je crois que à ce stade, et la mesure qui a été prise par le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'économie, qui a instruit pour que toutes ces mesures qui ont été prises par la notification du premier ministre, et cela, à l'importation, le PMF va être compétitif. Je crois que ça peut nous permettre de faire face à cette crise. Donc, il n'y a pas une crise de produits, mais il faut tenir compte que la logistique pour la mise en place de ces produits au niveau des stations, ça peut prendre du temps. Ça peut être aussi que non, il y a d'autres stations qui ont été livrées avant. Le premier qui arrive, qui est servi, il appelle un autre automobiliste pour dire « J'étais dans telle station, on m'a servi ». Et ça crée l'engouement. Et maintenant, c'est tout le monde qui se précipite sur cette station et on dit qu'il y a rareté. Oui, ça nous est déjà arrivé. CEP Congo, comme d'autres sociétés de logistique, ils travaillent et ils se battent pour que le produit soit distribué au bon moment et que les consommateurs puissent aller pour être servis. Je crois que les gouvernements, au travers des structures spécialisées, travaillent et réfléchissent sur les possibilités qui peuvent permettre à ce que cette crise soit atténuée et que les consommateurs soient satisfaits.
Voilà, ces leviers de sûreté interne dont vous venez de parler, c'est les différentes facilités que le gouvernement vient d'accorder aux pétroliers.
Oui, ça, il vient d'accorder aux fournisseurs, parce que là, ils ont pris l'un des éléments qui pèse plus dans la structure des prix ou qui pèse plus dans la fixation du prix à la pompe, dont notamment le PMF, les prix d'acquisition des produits auprès des fournisseurs. On a supprimé tout ce qu'il y avait comme frais d'hygiène, frais quarantaine, frais... Il y a toute une liste que je pourrais peut-être entrer dans certains de mes documents pour voir, mais tout ce qu'on a réduit, puisque ces frais, le fournisseur payait avant. Maintenant qu'il ne paye plus, je crois que le PMF commercial va être compétitif.
Voilà, et donc on peut comprendre par là que ces mesures peuvent être efficaces seulement à court terme.
Oui, là maintenant vous touchez un point important que moi, par exemple, je ferai une suggestion. Il faut faire il faut analyser des situations et prévenir et faire même anticiper, s'il faut même dire. Parce que dans notre pays, nous devons déjà réfléchir sur une diversification de notre économie et voir en matière énergétique et même en matière de stock de sécurité ou de stock stratégique. Comment est-ce que nous pouvons nous faire un effort pour avoir un stock qui nous permet de gérer un temps de couverture à moyen, à court et à long terme? Ça peut être des stocks physiques disponibles, tout comme ça peut aussi être du cash, un matelas en cash qui peut nous permettre, dans ces moments précis, de faire face et de faire venir même des tankers en droiture, en toute urgence, pour pouvoir couvrir des situations comme celles que nous vivons maintenant.
Et donc, anticiper.
Anticiper.
Merci. Lems Kamonya, vous êtes expert en économie et finances. Vous également, comment vous analysez cette situation?
Oui, merci pour la question. Je salue aussi mes co-débatteurs, M. Marine Bati et M. Fabrice Ngabo. Bon, je pense que je ne vais pas revenir sur les éléments qu'ils ont évoqués, parce que c'est vrai, aujourd'hui, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, il y a tous ces pétroliers qui sont bloqués. Il y a la pénurie qui se crée de carburant au niveau d'un certain nombre de pays. Peut-être que nous ne sommes pas directement liés à ces pays, mais nous faisons partie de cette économie mondiale. Donc les problèmes économiques qui se posent dans d'autres pays peuvent aussi se répercuter avec usure sur notre économie, dès lors que nous avons une économie qui est totalement extravertie. Alors, la première conséquence qu'il faut craindre, c'est que aujourd'hui, il y a augmentation du prix des barils. Ce qui fait que cette augmentation ne va pas seulement affecter les pays qui sont dépendants, dont les importations doivent passer par ces détroits. Même les autres pays qui produisent les produits pétroliers doivent chercher aussi à aligner leur prix par rapport au prix mondial du baril. Alors, même si nos approvisionnements ne passent pas par ces détroits, mais sachant que là où nous nous approvisionnons, un jour on va nous dire qu'il y a aussi augmentation du prix du pétrole, donc du carburant, et cela va affecter notre économie. Ça, c'est tout à fait normal.
Ça, c'est lié au réflexe de tout opérateur économique, c'est ça?
Bien sûr, nous sommes sur un marché mondial. Quand on vous dit que le baril a augmenté les prix, les autres aussi doivent chercher à s'aligner sur les cours mondiales. C'est normal. C'est comme quand on vous dit que les cours de cuivre ont monté, personne ne va dire moi je vends moins cher parce que tout le monde se réfère à ce qu'on considère comme le cours moyen qui est vendu au niveau, qui est offert au niveau mondial. Donc on devra s'attendre un jour à voir que même là où nous nous approvisionnons, qu'on nous dise qu'il y a un renchérissement des prix parce que nous sommes en train de suivre l'évolution du prix des pétroles, donc du prix des barils sur les marchés mondiaux. Et aussi, il y a un autre phénomène. Les pays dont les importations doivent passer forcément par ces détroits, plus ces détroits d'Ormuz continuent à être fermés, ces pays commencent à chercher d'autres sources alternatives d'approvisionnement. Alors, parmi ces sources, nous pouvons voir que certains des pays qui sont aujourd'hui confrontés à cette crise sollicitent là où nous nous approvisionnons. D'un coup, les pays qui nous servent vont se retrouver devant une pression de la demande. Et là, lorsque la demande augmente, alors que l'offre reste la même, conséquemment, les prix ne peuvent qu'augmenter. Donc ça, ce n'est pas seulement un simple alignement, c'est le fait que la demande peut augmenter parce que ces pays ne peuvent pas accepter d'être bloqués. Ils doivent chercher d'autres sources alternatives d'approvisionnement. Donc,
là, vous faites allusion à Dangote, notamment?
Oui, mais il peut aussi avoir des commandes de manière inattendue et il s'est dit, bon, voilà, il y a certains pays européens qui ont besoin de mon carburant et je ne peux pas seulement livrer à certains pays africains. Et il va commencer à chercher celui qui offre le mieux. Et ça peut arriver. Et il faut toujours s'attendre que plus ces détroits restent fermés, c'est une possibilité qui pourrait arriver et qui pourrait entraîner l'augmentation du prix des produits pétroliers. Alors ça, il faut s'attendre. Maintenant, à l'interne, même si le gouvernement nous dit qu'il y a le stock est suffisant, non, en économie, on ne peut pas réfléchir comme ça. Un opérateur économique, il s'est dit, si j'ai un stock au moment où je vais l'écouler, à un certain prix, il faut que je sois en mesure de me réapprovisionner à ce même prix, donc à un prix qui est plus bas pour que j'aie les bénéfices. Si moi, je dois vendre les produits que j'avais achetés pendant que le baril était à $85 et que maintenant pour aller mes approvisionnements je dois payer comme aujourd'hui on est autour de $103 ou $105. Et non, je ne peux pas dire que j'ai des produits ici que j'avais achetés à moins cher, je les vends à moins cher, je ne saurais pas me réapprovisionner. C'est ce qui fait que c'est ça le comportement que nous observons aujourd'hui dans les pays. Ceux qui ont ces produits pétroliers, ils veulent aligner leur prix par rapport au prix du baril. Parce qu'ils se disent, sinon, on ne sera pas à mesure de nous réapprovisionner et avoir la même quantité, même s'ils ne le disent pas. Et c'est pourquoi le gouvernement a pris ces mesures, pour leur dire, monsieur, nous connaissons cette réalité, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous permettre de garder les mêmes prix de produits pétroliers.
Justement,
donc, aujourd'hui, ils jouent avec les quantités.
Justement, l'EMS, jusqu'à quel niveau les facilités que le gouvernement vient d'accorder aux pétroliers peuvent produire des résultats escomptés?
Oui, moi j'ai noté trois mesures importantes. Bon, la première mesure, c'est la suppression de certaines taxes pour arriver à influer ou à réduire les prix moyens frontières. Cela signifie si, par exemple, on supprime certaines taxes et que cette suppression-là arrive à compenser l'augmentation du prix du baril, donc à ce moment-là, les prix vont rester les mêmes. Alors, il faut que ces mesures soient effectives pour que les prix moyens frontières puissent diminuer. Ça, c'est à saluer. L'autre mesure que j'ai notée qui peut être efficace et qui doit s'appliquer, c'est l'avance des fonds aux fournisseurs. Parce que c'est le moment de s'approvisionner. Si on accorde des avances aux fournisseurs pour qu'ils s'approvisionnent, pour qu'ils augmentent notre stock de sécurité, à ce moment-là, je viens d'apprendre par M. Méry que nous avons un stock qui peut aller jusqu'au mois de juin. Si, par exemple, nous avons des approvisionnements sûrs qui peuvent nous dire jusqu'à la fin de l'année, nous avons des stocks dans les pays, ça, c'est une mesure à saluer. Et une fois de plus, il faut que cette mesure soit effective. J'ai noté aussi des facilités douanières qui peuvent être accordées. Donc, par exemple, accélérer les processus de dédouanement de ces produits pour qu'ils ne traînent pas dans les processus de dédouanement. Je crois que le gouvernement est dans son rôle et le gouvernement a touché sur des mesures qui peuvent directement, à très court terme, influer et casser un peu cette spirale de hausse qui arrive et que nous puissions disposer d'un stock de sécurité et garantir un approvisionnement régulier des produits pétroliers aux prix actuelles. Mais une fois de plus, il faut que, entre les moments où les mesures sont prises et les moments où elles s'appliquent, qu'il n'y ait pas un temps assez long. Parce que parfois, les mesures sont des effets d'annonce, mais les services sur terrain traînent parfois les pieds pour se mettre en exécution. Donc, on aimerait que le gouvernement passe des mesures théoriques à l'effectivité. Et pour moi, c'est des mesures qui, si elles sont mises en place, elles peuvent nous permettre de sauver tant soit peu la situation à court terme.
Merci. Nous allons maintenant écouter les auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue par rapport à cette thématique. Fabrice Ngabo, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani, c'est Blaise Saïdi Atoubou.
J'appelle à partir de Kisangani, Blaise Saïdi Atoubou. Je pense que cette situation met en évidence une fragilité structurelle inquiétante. La RDC subit les crises internationales sans véritable capacité d'amortissement. Sans mesures urgentes et efficaces, les pays risquent de s'installer dans un cycle de crises répétitives où chaque choc extérieur amplifie les difficultés internes au détriment de la population. Pourquoi la RDC reste-t-elle dépendante des importations de carburants malgré ses ressources naturelles? Quelles mesures concrètes peuvent être prises immédiatement pour limiter la hausse des prix? Le système de stockage stratégique des carburants en RDC est-il suffisant pour faire face à ce type de crise?
Oui, Fabrice Ngabo, votre réaction?
Effectivement, je suis totalement d'accord avec l'auditeur, parce que tous les produits sur lesquels nous revenons ce soir, on l'a rappelé, ils sont importés. Et donc, le gouvernement peut prendre des mesures pour gérer la situation et les conséquences à court terme, mais il se fait que si les violents ne s'accordent toujours pas par rapport à cette crise du Moyen-Orient et que la situation perdure, vous voyez que les mesures prises par le gouvernement seront limitées. Et justement, nous allons tomber dans une situation que nous ne souhaitions pas. Et donc, je crois que nous n'avons pas la capacité de pouvoir réduire ces effets à moyen et à long terme. Et c'est pourquoi, dans mes propos, je commençais par déplorer l'absence de la capacité d'anticipation. N'est-ce pas? Je crois que cette situation, à mon avis, pouvait être anticipée si et seulement si nous avons pris conscience du degré de fragilité de notre économie, parce que toutes les crises qui vont se passer au niveau international vont naturellement produire des effets négatifs ou des chocs à la limite sur notre économie, parce que nous n'avons pas investi à l'interne, notamment dans les infrastructures, de manière à amortir vis-à-vis de ces chocs et par la suite à rebondir. Alors, parlant de la capacité d'anticipation, M. Guy Maté, beaucoup de pays africains aujourd'hui qui ont une certaine production du pétrole et des installations, des raffineries, ne vont pas subir les mêmes effets que nous, n'est-ce pas? J'ai parlé de pays comme le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, ainsi, ce sont des pays africains aussi, qui vont naturellement aussi subir les effets, mais pas au même degré que nous. Alors, je me rappelle, j'étais en train de le dire, que au cours de la réunion du Conseil des ministres du 20 mai 2022, le président de la République avait instruit le gouvernement de mettre les moyens nécessaires pour la relance de la société dite SOCIR. C'est la société congolaise des industries et des raffineries du pétrole. Et depuis que le président avait donné cette instruction jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui a évolué. Alors qu'à l'époque, on était préoccupé par la crise qui s'annonçait déjà avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais après, nous avons complètement oublié ce qui signifie que j'ai comme l'impression que nous n'avons pas vraiment une véritable vision de développement de notre pays et nous sommes en train d'agir par tâtonnement suivant l'évolution des événements et non par anticipation d'événements. Donc ça nous fragilise davantage, ça fait que sans production, même à une certaine hauteur, nous serons incapables de pouvoir gérer la situation à moyen et à long terme. Merci. Donc je suis totalement d'accord avec l'auditeur et la solution durable, à mon avis, passe par la production locale, le raffinage au niveau intérieur.
Merci.
Parce que je vous rappelle, M. Guy Maté, lorsque M. Laurent Désiré Kabila a pris pouvoir, rappelez-vous que la RDC était sous sanction internationale. Et pendant un temps, la RDC a produit le pétrole et on a consommé le pétrole ici. Et puis, il faut le dire, non seulement l'essence, les mazoutes, ainsi de suite, mais aussi cette raffinerie, si elle fonctionne, elle nous permet d'avoir les bitumes qui pourraient accélérer les niveaux de couverture du réseau national routier, qui pose énormément de problèmes. Je crois qu'on n'a pas réussi à développer cette capacité d'anticipation à l'interne, ce qui nous expose aux chocs exogènes, et ça fait que si cette crise perdure, Nous ne saurons pas nous en sortir.
Merci, Monsieur Emery Mbatu-Bopé. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Boussembo, au nord Kivu. C'est Pierre Moussafiri.
Bonsoir, la fréquence de la paix. Pierre Moussafiri depuis Boutembo au nord Kivu. Les effets de la guerre au Moyen-Orient se font déjà sentir non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans plusieurs pays africains ou même européens. Pour les camps de la RDC, les conséquences sont déjà visibles. Le prix des transports de biens et des personnes a commencé à grimper en raison des hausses du carburant dans les stations-service. Cette situation risque d'affecter presque tous les secteurs de l'économie nationale. Tout opérateur qui dépense davantage pour le transport de ses marchandises cherchera logiquement à répercuter ses coûts sur les prix de vente. Dès lors, cette réalité devrait nous pousser à réfléchir sérieusement à la production locale dans tous les secteurs de la vie. Notre pays regorge des ressources que le monde entier convoite, mais nous continuons malheureusement à aller chercher ailleurs. Merci beaucoup.
Emery Mbatu-Bopé ?
Oui. Oui.
Emery Mbatu-Bopé, est-ce que vous êtes là ? Emery Mbatu-Bopé, est-ce que vous êtes toujours là ?
Je suis là.
Voilà, vous avez suivi la réaction, la réflexion de l'auditeur qui venait nous appeler depuis la ville de Boutembo, au nord Kivu ?
Bon, j'ai suivi, mais d'abord, il parle d'une hausse. Moi, je pense que les produits pétroliers, le prix qu'on utilise pour vendre à la pompe, c'est structuré. Il n'y a pas une augmentation du prix. À moins que ça soit quelqu'un qui ne veut pas respecter le principe et les prix fixés par le ministère qui s'occupe du prix. Alors, dans ces prix, nous avons toujours des composantes
dont notamment les opérateurs qui sont dans la distribution. Je crois que toutes les trois zones, que ce soit celle de l'Est, celle du Sud et celle de l'Ouest, ils respectent cela. Donc, jusque-là, on ne peut pas parler d'une augmentation des prix. Bon, les conséquences, peut-être aussi, il faut dire, aujourd'hui, nous remarquons que tous ceux qui ont difficile à accéder aux produits pétroliers, qui relèvent d'une conséquence de cette crise qui est en train d'affecter l'économie mondiale, il y a des prix de biens et de services qui vont encore aggraver l'inflation et la pauvreté éventuellement. Alors, la dépendance que nous avons face aux importations peut aussi entraîner une augmentation des prix des denrées alimentaires, bien que les carburants aussi, ça peut aussi connaître les effets la hausse du prix, mais pour ces cas précis, on ne peut pas parler d'une hausse parce que le gouvernement a tenu la bête par ses cornes en diminuant certaines frais et taxes qui étaient perçus avant, qu'on les a supprimés, ce qui permet à ce que le PMF commercial soit à mesure d'être compétitif et ne pas permettre les effets directs à la pompe.
Vous avez suivi Lems Kamoania qui a dit qu'il faut aussi que cette suppression de ces taxes soit effective.
Oui. Moi, je pense que nous devons faire confiance à notre gouvernement. Je crois que le simple fait de recevoir la lettre du Premier ministre qui dit dès réception de cette lettre, on doit appliquer. Je crois tous ceux qui amènent leurs produits au déchargement, dès que le tanker est accepté et il est déjà au ponton, si on lui fait la note des frais et que là-dedans, on trouve des frais qu'on a supprimés, dont notamment, si je peux prendre quelques cas d'exemple ici, vous allez voir que les frais, par exemple, sanitaires, ce sont les frais qui sont déjà supprimés. Donc, si on vous les demande, je crois qu'il ne faut pas payer. Les frais de personnel, des personnes d'hygiène aux frontières, c'est supprimé. Les frais de régulation, supprimé. Les frais LMC, supprimé. L'inspection et les contrôles, réduits à 50%. Je prends par exemple les frais CVM, réduits à 50%. La redevance de la DGDA, supprimée.
Merci.
Ce sont des frais qui s'ajoutaient au prix des revient.
Merci.
Donc, le produit aujourd'hui à l'acquisition par les distributeurs, je crois qu'il sera un prix qui sera déduit de tous ces frais. Je pense que ça peut permettre à ce qu'il y ait une stabilité.
Merci.
J'ai entendu parler de la durée dans la lettre du Premier ministre. Elle était claire. Dans les 45 jours, on doit évaluer pour voir qu'est-ce que toutes ces mesures ont produit dans l'effectivité et dans le prix.
Merci, merci Mbaki Mopé. On va donner la parole aussi à Lems Kamoania. Lems Kamoania, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kisangani, une fois de plus, c'est Jacques Befonga.
Je m'appelle Jean Befonga Malumalu, depuis Kisangani, province de la Tchopo. La crise actuelle nous montre une réalité inquiétante. La guerre au Moyen-Orient, loin de nos frontières, impacte déjà directement la vie des Congolais, notamment à travers la rareté du carburant à Kinshasa. Notre économie est trop dépendante de l'extérieur et souffre d'une gouvernance insuffisamment efficace. Comment expliquer qu'un conflit loin de nos frontières provoque aussi rapidement des pénuries chez nous? Cela prouve que nos mécanismes des prévisions, des stockages et des régulations sont faibles. L'alerte du PAM est claire. La hausse des coûts de l'énergie et des produits de base risque d'aggraver la faim, surtout dans les pays dépendants comme les nôtres. Ainsi, tant que cette guerre va continuer, notre économie nationale risque de se détériorer davantage, avec des conséquences directes sur le pouvoir d'achat et la sécurité alimentaire des populations. Il est donc urgent de renforcer notre souveraineté économique pour protéger les Congolais.
Lemskamonia.
Oui, merci beaucoup. Je crois que si l'auditeur a été avec nous pendant que nous avons fait notre intervention, première intervention, il doit comprendre que cette situation n'affecte pas seulement la RDC. On a vu aux États-Unis, les gens se plaignent que les prix de carburant ont augmenté de 30%. En Europe, il y a déjà certains pays qui commencent à sentir les effets. Nous sommes aujourd'hui au niveau de ce qu'on appelle une économie qui est mondialisée. Donc, les crises économiques qui se passent dans certains pays provoquent des chocs qui peuvent se répercuter dans les autres pays avec lesquels il y a une certaine indépendance dans le cadre des échanges commerciaux. Ça, c'est le cas. Mais dans chaque pays, pour l'appuyer peut-être, on met toujours en place des mécanismes internes pour lutter et atténuer les effets de ces chocs exogènes. C'est peut-être ces mécanismes-là qui, dans notre pays, ne sont pas encore très efficaces, qui rend notre économie trop malléable et trop vulnérable par rapport à tous ces chocs exogènes, et il faudrait y travailler sérieusement. Et la plus grande mesure qui a toujours été souhaitée, c'est augmenter la production intérieure et réduire notre dépendance économique vis-à-vis de l'extérieur, notamment lorsqu'il s'agit des produits stratégiques comme les produits pétroliers.
Oui, l'instant moyen.
Aujourd'hui,
oui. Nous tendons vers la fin de l'émission, on va faire des propositions, des pistes de solutions. Finalement, comment comprendre le fait que la RDC, parce que vous avez parlé d'augmenter, n'est-ce pas, la production interne, pourquoi nous n'arrivons pas, parce que nous avons quand même un patrimoine des hydrocarbures qui est important, mais pourquoi on n'arrive pas à augmenter la production par rapport à ce qui se passe à Moanda, avec Perenco?
Bon, d'abord, est-ce que le brut qui est produit à Moanda est consommé dans les pays? Non, je crois que les bruts, on n'a pas assez de raffineries qui peuvent produire, donc ils peuvent raffiner les produits que nous consommons au niveau des consommateurs chinois.
Et c'est quoi la solution aujourd'hui? Ça peut être quoi la solution durable pour la RDC?
C'est un problème d'investissement. On n'a pas investi massivement dans les secteurs pétroliers, que ce soit en amont ou en aval, parce que il faut investir dans la prospection, il faut investir dans la production, il faut investir dans les infrastructures de raffinage des produits pétroliers afin d'avoir les produits qui sont consommables par les entreprises et autres. Ce retard a été massif, l'État n'a pas eu des moyens conséquents ou n'a pas investi dans ce secteur, et l'État n'a pas aussi mis en place une politique incitative pour attirer les investisseurs privés qui pouvaient investir. Je crois aujourd'hui ça devient plus qu'urgent que l'État regarde ces deux axes. Premièrement, l'État peut investir lui-même dans le secteur pétrolier, et de deux, l'État doit avoir des politiques incitatives et diversifier les partenaires qui viennent investir dans le secteur pétrolier, que ce soit en amont comme en aval.
Merci. Fabrice Ngabo, vous allez aussi conclure. Hein. C'est quoi la solution que vous pouvez proposer pour que les pays, non seulement puissent faire face, n'est-ce pas, puissent amortir, n'est-ce pas, les chocs, mais aussi que nous soyons aussi en mesure, n'est-ce pas, d'investir comme on venait de le proposer l'EMSKAMONIA dans notre patrimoine des hydrocarbures.
Merci beaucoup, Monsieur Guy Maté. Je pense que ce débat relève les limites structurelles de notre économie, et je crois que les solutions ne sont pas loin de nous. La première solution, rapidement, je crois que le gouvernement doit en urgence mettre les moyens pour relancer la société congolaise des industries et des raffineries du pétrole qu'il y a à Moanda. De deux, le gouvernement doit constituer suffisamment des réserves stratégiques et de s'assurer que dès que cette production sera relancée, au moins nous serons capables de résister ou de réduire suffisamment de risques liés au choc extérieur. Et de trois, le gouvernement doit également diversifier davantage les sources d'approvisionnement pour que nous soyons capables de réduire ces risques. Le deuxième aspect de ma conclusion, c'est que vous avez relevé dans l'annonce de cette émission la problématique de la famine qui frappe plusieurs populations dans le monde, notamment notre population dans la partie orientale du pays, dont la situation sécuritaire semble être reléguée au dernier plan par le gouvernement. Nous sommes un pays agressé, mais quand vous voyez l'attitude du gouvernement, vous avez comme l'impression que la solution à la crise sécuritaire de l'Est, pour cette population, ne l'intéresse plus. Alors que tout le monde avait proposé au gouvernement, rapidement, de mettre en place les assises qui vont réunir tout le Congolais de manière à discuter des crises profondes de cette problématique et envisager une solution. Mais apparemment, le dialogue, on n'en parle plus. On a créé un débat inutile sur le changement de la constitution pour distraire l'opinion, pour nous écarter davantage de la solution.
Merci, Emery Mbatiboupé. Votre mot de la fin.
Merci. En guise de conclusion, moi, je pourrais dire tout simplement qu'il est grand temps, avec ce qui vient de se passer, nous pouvons aussi avoir un problème de calamité naturelle. Il ne faut pas toujours voir la guerre. Oui, le détroit d'Hormuz, qui est le canal par lequel presque toutes les importations en produits pétroliers passent. Mais si c'était une calamité, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il est temps que le gouvernement puisse mettre en place, pourquoi pas une entité ou une société à part de gestion des stocks de sécurité. Et là, nous pouvons, avec soit tout ce qui se paye dans la structure des prix, mettre de côté les moyens et constituer un matelas, au point que s'il y a un problème, nous pouvons soit avoir du stock physique, et là il faut voir les investissements dans les stockages et dans la logistique pétrolière, nous n'en avons pas. C'est pour moi quelle capacité de stockage. Oui, nous louons l'EDIA, les RESCOM, qui a placé quand même un stockage additionnel. Et est-ce
Merci.
Ça, qu'est-ce que nous avons? Alors maintenant, il est temps que le gouvernement réfléchisse. Quittons un peu ce que nous avons fait d'habitude, qu'on mette en place une structure de gestion des stocks de sécurité.
Merci. Merci, on a compris. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Monsieur Emery Mbatiboupé, Monsieur Fabrice Sengabo et Monsieur Lems Kamwanya. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé, à André Mongou qui est à la technique et Jean-Claude Ntiala qui a assuré les lives de cette émission. À la présentation, Guy Maté, merci encore et bon suite des programmes sur Radio Capi.